Donc Emmanuel Piette, collectif féministe contre le viol, donc. Depuis 1985, plus de 36 000 personnes ont téléphoné pour un viol ou une agression sexuelle, un viol par information, 0800, 05, 95, 95. C'est toujours la même histoire. La stratégie d'un agresseur, d'un violeur, évidemment c'est la même. Dans la violence conjugale, dans la violence sexuelle au travail, dans la violence familiale, on a toujours la même chose. On se choisit la victime, on se la prépare, et puis on lui fait tellement peur qu'elle ne pourra pas parler, etc. Et ça, c'est la violence, comme elle est comme ça. C'est la question que je me pose, est-ce qu'on va faire des textes de loi pour former les professionnels, ou bien on forme les professionnels et ça leur permettra d'appliquer les lois. Ça, c'était pour le délit spécifique qui m'énerve vraiment beaucoup, parce que le viol, c'est pas un délit. Donc voilà. Et c'est décrire les mécanismes de la violence, ça fait pas un texte de loi. Je pense qu'il va falloir peut-être le penser autrement. Mais bon. Alors, sur les viols, nous, on nous appelle, dans 62% des cas, il s'agit de viols sur mineurs qui se sont passés il y a très longtemps, et la plupart du temps, maintenant on nous appelle, on est majeur, mais on a été victime jeune. Alors, sur les textes qui nous manquent vraiment, il nous manque la requalification. Alors, je veux dire, en vrai, en ce moment, on peut être un enfant de 5 ou 6 ans, avoir été violé par un monsieur de 19 ou 20 ans ou 40 ans, et il faut encore prouver que ça a été commis par menace, contrainte et surprise. Ça ne va pas de soi que si on a une relation sexuelle avec un enfant, c'est un viol. Non, ça va pas de soi, il reste encore à prouver, et c'est encore compliqué. Là, nous, on a un petit trou législatif important pour lequel on aimerait bien que les choses se modifient. Et puis, c'est vrai que tout ce qu'on a vu autour des disparus de Lyon, des disparus de Bourmelon, etc., nous montre que la prescription à 10 ans pour les crimes sur personne, et c'est certainement pas assez, et que ça permet à un certain nombre de gens bien violeurs, récidivistes et bien continus, de continuer à être victimes. Donc c'est vrai que pour nous, la prescription, c'est quelque chose d'important, il faudrait que ça saute quand même. Alors ensuite, mais ça, je vais me faire complètement assassiner par ma voisine, mais ça peut être
très passionnant.
Mais quand même, nous, on a un problème avec l'opportunité des poursuites des procureurs en matière de crimes sur personne. Parce que moi, alors je l'entends avec ma vision déformée, mais j'entends quand même Dieu fait qu'est-ce que je veux. C'est-à-dire que finalement, un viol, on poursuit pas. Une mutilation sexuelle, on poursuit pas. Et c'est quand même exactement de cet ordre-là. Et puis on a un autre problème avec Perben 2, qui semblait être un progrès, puisque la victime devait donner son avis si on déqualifiait ou pas. Alors on s'est dit, c'est quand même mieux qu'avant, on déqualifiait sans qu'elle donne son avis. Mais maintenant, on s'aperçoit, et en particulier en matière de mutilation sexuelle, que nous aboutissons quasiment à des déqualifications systématiques. Les deux derniers procès pour mutilation sexuelle au tribunal de Bobigny passaient en correctionnel, et nous ne sommes pas arrivés à les faire passer à la cour d'assises, parce que la petite ne voulait pas faire de la peine à sa maman, bien sûr. Donc c'est quand même, je trouve, extrêmement violent, parce que c'est pas sa correctionnel. Et pour les viols, c'est la même chose. Donc finalement, quelque chose qui nous avait semblé un progrès, là on est dans une déqualification quasiment systématique, ou beaucoup plus qu'avant, depuis Perben 2, et ça agace un peu quand même. Les dénonciations calomnieuses, et ça, c'est la revendication majeure de la BFT auquel nous associons vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque une fois que, du fait de l'opportunité des poursuites, c'est classé, puis qu'il y a un non-lieu, et bien ça va de soi que la personne qui a porté plainte puisse être condamnée pour dénonciation calomnieuse. Alors nous souhaiterions que ce de soi soit supprimé de la loi. Vous avez une place là ? Oui, non, mais je vois. Si je continue autour de la violence conjugale, une des choses sur lesquelles nous avons, nous, à faire la plupart du temps, sont les atteintes aux enfants par le biais de la violence conjugale, que nous avons appelé les délits de justice en matière d'agression sexuelle sur enfants. Il se trouve que dans les processus normaux et les mécanismes normaux les pires en matière de violence conjugale, une fois que la femme a fui, s'en va, pour continuer à la blesser, à l'atteindre, l'homme va exercer des violences sur l'enfant. Et il se trouve que, alors moi j'ai vu des violences, balancer l'enfant contre un arbre en le rendant pendant l'exercice du droit de garde, etc., devant la mère, des choses très violentes. Et il se trouve que nous n'arrivons pas à protéger ces enfants, puisque on a alors les violer, les agresser sexuellement, et il se trouve que quand les femmes portent plainte pour essayer de protéger leurs enfants, globalement actuellement, c'est impossible de les protéger. Pourquoi ? Parce que, et puis c'est vrai qu'un agresseur n'est pas forcément un imbécile, qu'il connaît assez bien les mécanismes de la violence, qu'il sait à peu près bien se présenter, puisque une de ses stratégies était « on dit bien, madame, il était tellement gentil à l'extérieur, personne ne croirait, etc. » Et vous savez, avec ses enfants, il se tient bien, il s'applique, etc. Je ne veux pas. Bon. Eh bien, il va dire que cette maman porte plainte pour l'embêter, qu'elle manipule ses enfants, que c'est même pas vrai, etc. Et en ce moment, nous n'avons aucun moyen vrai de protéger ses enfants. La dernière fois que j'ai fait un signalement, le policier m'a appelé, m'a dit, vous savez, la dame a divorcé, c'est même pas la peine. Donc voilà, on est quand même dans un truc où la protection de l'enfance sur ces coins-là n'est pas du tout assurée, ou très peu. Et en tous les cas, nous, sur les 350 affaires que nous suivons régulièrement depuis une dizaine d'années, avec des histoires, avec des vrais certificats médicaux, avec des vraies expertises, eh bien, on a eu une dizaine de dames condamnées en prison pour non-présentation d'enfants, dont deux qui en ont fait effectivement, mais des hommes condamnés pour agression sexuelle. Donc on a un vrai problème là qui fait que c'est plus au niveau de la formation, probablement des magistrats, des policiers. C'est plus au niveau de la prise au sérieux de ce que disent les enfants, mais là, en ce moment, nous, on ne sait pas les protéger, ces enfants.
Gna gna gna.
Alors, concernant les violences commises sur les viols commis sur les adultes, depuis que on commence à penser, alors, je sais que depuis les arrêts de la Cour de cassation entre 90 et 92, on admettait le viol conjugal. Mais en fait, ça a pris plus d'ampleur depuis que c'est devenu une circonstance aggravante et qu'on en a parlé en 2006. Les personnes qui nous appellent pour viol conjugal sont plus nombreuses. C'est pas qu'elles sont plus nombreuses à être violées, mais c'est qu'enfin, on en parle et on le dit et on le dénonce. Et je pense que, évidemment, ça ne peut qu'augmenter. Hein, parce que, franchement, du temps où on pensait que c'est ça le devoir conjugal, et on a encore une grande partie de notre population qui parle comme ça, qui dit des choses comme ça. Et puis, l'acceptation de penser que, ben non, c'est pas comme. C'est même pas parce que tu es marié que tu as le droit d'être violé. Voilà, et bien ça va augmenter. Mais ça, c'est quelque chose qui demande encore énormément de sensibilisation et d'explication. Parce que au téléphone, elles appellent, elles disent, vous allez me dire, si c'est un viol, c'est mon mari. Ben oui, quand même, hein, vous ne vouliez pas. Mais c'est quand même, elles nous appellent, c'est donc elles pensent un peu. Mais quand même, il y a ça qui reste. Et puis l'agresseur, il lui dit, hein, quand même, alors. 4,7% des viols sont commis au travail. 4,7. C'est une enquête INSEE, février 2008. Moi, je me dis que c'est encore en pensant aux délits spécifiques. Mais vous vous rappelez le coup du harcèlement sexuel ? Eh bien, ils passent tous en harcèlement sexuel maintenant, les viols commis au travail. Eh bien, oui. forcément. Et si on fait un délit spécifique, on a fait un délit psychologique, un harcèlement psychologique au travail, et bien le harcèlement sexuel, il va devenir du harcèlement psychologique. Hein, c'est le risque majeur. Donc je pense qu'il y a une vraie nécessité à ne pas s'en recoller trop, parce que ça va toujours passer au-dessous. Et puis, deux dernières choses. On peut admettre, si on fait des extrapolations un peu, mais à minima, hein, et puis sur l'enquête en bref, et même l'Observatoire national des violences de la délinquance a sorti des chiffres, on peut admettre, pas cher, 120 000 personnes victimes d'un viol au moins à l'année. Alors, c'est à peine 12 000 plaintes par an, et c'est même pas 1400 condamnations, je parle pour viol. Et là-dessus, on nous fait une énorme promotion pour les récidivistes. Alors moi, c'est un don de m'énerver terrible. Parce que qu'est-ce que c'est un récidiviste ? C'est un mec qui se fait gauler deux fois. C'est quand même pas parmi les plus malins. Parce qu'un papa qui viole son enfant tous les jours, pendant 10 ans, quand il tombe, c'est un primo-délinquant. Un homme qui viole sa femme tous les soirs depuis 25 ans, c'est aussi un primo-délinquant. Monsieur Torgman, sexologue, dans lequel le collectif féministe est partie civile, parce qu'il a au moins une soixantaine de victimes, mais c'est un primo-délinquant, il est en liberté. Et d'ailleurs, il a donné un rendez-vous à une cliente pendant son contrôle judiciaire qu'il avait interdiction de travailler, ça lui a valu 15 jours de prison, c'est tout. Parce qu'il est vieux. Et donc, il y a comme ça, sur la dangerosité, parce qu'un gamin qui vole ou qui casse deux rétros, il en vole tout de suite, hein. Non ? C'était pas tout de suite en taule, les gamins, quand ils ont piqué.
Joker.
Bon, parce que moi, ça m'agace un peu quand même. Parce que le gamin qui pique à la trombone, d'accord, c'est énervant. C'est quand même vachement moins dangereux que ce type qui viole 60 personnes, qui viole ses enfants tous les jours et qui sont complètement en liberté. J'ajoute que au point d'être en liberté, qu'ils apparaissent même plus à leur jugement, puisque nous, on en a un pour lequel on était partie civile qui est en Russie, qui a même téléphoné au président du tribunal le jour de son procès pour dire qu'il était en train de se refaire faire la figure, et dont le nom est resté sur le site de l'ambassade française comme bon médecin en Russie. Donc je me dis que là, il y a quand même, par rapport à la prise en compte de la dangerosité de ces agresseurs sexuels primo-délinquants, quelque chose à repenser. Et je suis bien d'accord qu'ils ne sont pas jugés, mais quand même, quand il y a plusieurs victimes, quand même, quand c'est il y a depuis si longtemps, est-ce que c'est bien raisonnable ? Voilà, c'est à peu près tout.
Merci Emmanuel.